Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. On va parler vautours aujourd'hui avec Sébastien Lantôme. Bonjour.
Bonjour Baptiste.
Et tu as décidé d'inviter Michel Morin, éco-garde Parc Naturel Régional du Vercors, sur le secteur d'Iwa et précisément sur le vautour. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous Michel.
Ah oui. On se retrouve Sébastien parce que dans le cadre de tes activités d'accompagnateur en moyenne montagne, tu proposes plusieurs types de sorties. La sortie vautour, on en avait déjà parlé l'année dernière. On va y aller un peu plus encore. Surtout que tu nous proposes qu'on fasse semblant d'en faire une maintenant.
C'est ça, ouais, j'imaginais qu'on allait se promener aujourd'hui.
Allez, ben on s'en va alors. On s'en va où d'abord pour commencer?
Ben, le terrain approprié pour voir des vautours, c'est Chamaloc.
Pourquoi?
Parce que c'est un endroit où on les nourrit. Enfin, on les nourrit, Michel nous expliquera ça plus en détail. C'est un endroit où on leur apporte des carcasses et donc c'est un endroit où on peut en observer un grand nombre.
Il y a un charnier?
C'est ça.
Ça pue?
Ça sent un peu fort, ouais.
Ouais. Ils le disent par exemple les gens que t'amènes sur ce site?
Alors généralement le circuit habituel que je fais ne passe pas à proximité du charnier pour éviter le dérangement, donc on sent pas les odeurs. Par contre quand j'ai un peu de public et un public un peu spécialisé, ça m'arrivait 2-3 fois de m'approcher du charnier et oui là effectivement ça, on sent bien.
Ils sont farouches ces vautours, hein. Tu disais qu'il faut pas trop s'approcher?
Ben, ce que Michel décrira, c'est que tant qu'ils sont pas partis manger, ils sont assez farouches. Voilà, faut pas les déranger après quand ils ont commencé.
Bon, une fois que la curée a commencé, effectivement, là, je crois que pas grand chose les dérange.
Ouais. Ils se battent entre eux et puis c'est...
Là, c'est la baston, c'est le plus fort qui mange.
Comment on procède pour cette sortie? On s'équipe bien?
Ouais, c'est une sortie assez tranquille. Hein. Le temps de marche est d'environ une heure. On fait 4 km. On fait des temps d'observation, donc on n'est pas en train de marcher pendant une heure en continu. On a un premier temps d'observation au niveau du parking, donc pour les gens d'ici qui connaissent maintenant cette aire d'observation qui a été proposée par le parc, propose d'avoir une longue vue et puis des panneaux d'explication. Et on est en face du charnier, donc quand on est raccord avec les horaires de nourrissage, on est là et on peut voir les oiseaux arriver un peu de partout, donc c'est assez spectaculaire. Donc à ce temps-là, je présente les différentes espèces, les 4 espèces qu'on peut potentiellement observer sur le site, gypaète, barbu, vautour fauve, vautour moine et percnoptère d'Égypte. On les redécrira un peu plus en détail après. Après là, je leur donne quelques critères pour pouvoir les déterminer. Donc ça permet qu'après, quand on est en observation en même temps qu'on se promène, ils aient déjà un petit côté curieux. Ils se disent, tiens, ça c'est peut-être plus un vautour fauve, peut-être plus un vautour moine. Et ensuite, on fait un deuxième temps d'observation un peu plus près du charnier, où là, on observe les animaux qui viennent et qui partent, et là je détaille un peu plus la symbolique du vautour, le régime du vautour, les régimes alimentaires des différents vautours, le rôle écologique et le rôle économique aussi pour nous du vautour. Quand j'ai de la chance, on est synchro avec Michel et donc Michel vient nous voir et on discute un petit moment. C'est pas toujours possible par rapport à sa tournée, mais quand c'est possible c'est intéressant, donc on a un petit temps de discussion avec Michel. Et puis on finit la promenade avec un temps d'observation après sur une ligne de crête où on peut voir les oiseaux en l'air. Et là, je parle plus de l'aérologie des vautours.
Un charnier, Michel, ça se pense à l'avance? Il faut par exemple que les bêtes puissent arriver et décoller, bien sûr?
Tout à fait, oui. Il faut trouver un point où les oiseaux puissent arriver facilement et surtout décoller. Parce qu'après, une fois qu'ils ont bien mangé, le plus dur, c'est de repartir. Et donc là, il faut effectivement un point un peu haut et puis qu'il y ait des bonnes conditions aérologiques pour qu'ils puissent retourner sur les airs, surtout au moment de nourrissage des jeunes.
Donc là, du coup, il y a quoi? Il y a un ascendant assez sympa dans cet endroit-là?
À Chamaloc, effectivement, l'endroit où ils sont, ça leur permet de repartir assez facilement. Oui, c'est un endroit qui leur plaît bien, apparemment. Il a été bien choisi.
Puis tu disais que quand ils mangent, bah, c'est-à-dire ils peuvent se mettre facilement 4-5 kilos.
À la période de nourrissage, surtout, effectivement, ils se gavent là. Ouais. Là, ils engloutissent tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir nourrir le jeune. Et donc là, c'est vrai qu'ils peuvent engloutir à peu près 3 kilos de nourriture. Et après, souvent, ils ont du mal à redécoller. Donc c'est pour ça qu'il faut des bonnes conditions aérologiques, surtout que nous, les airs principale de nidification sont sur le cirque d'Archiane. Donc c'est des oiseaux qui sont obligés de passer au-dessus du glandas pour pouvoir les nourrir les jeunes. Donc c'est pour ça qu'il faut des bonnes conditions aérologiques pour qu'ils puissent retourner nourrir les jeunes.
Ces vautours avaient été introduits autour de Chamaloc, justement, il y avait une cage.
Le premier site donc, de réintroduction, c'était sous les falaises du col du Rousset. Donc, les premiers oiseaux qui sont arrivés dans ces grandes volières, hein, c'était en 89. Ils sont restés 3-4 ans dans les volières pour qu'ils s'imprègnent bien du site. Et donc après, au bout de 4-5 ans, les volières ont été ouvertes. Donc les oiseaux sont partis, sont volés. Et ça permet de les laisser dans une cage, ça permet de s'imprégner du site. Et en principe, ils restent sur le secteur après, une fois qu'ils sont en liberté.
Mais en fait, non, ils sont partis dans...
C'est des oiseaux quand même ce sont des grands voyageurs.
Déjà.
Donc, tant qu'il n'y a pas de couple fait et tant qu'il n'y a pas de nidification, les oiseaux ne sont pas fixes. Ils se fixent une fois que la première nidification. Donc, effectivement, quand ils sont jeunes, c'est des oiseaux qui ont tendance à aller visiter un peu la France et même l'Europe.
Et donc, ils ne sont pas restés sur ce site, quoi. C'est quand même...
Si, il y en a un peu qui sont restés. Oui, bon, okay. Si, il y en a qui sont restés parce qu'on a continué quand même à les nourrir. Donc, du fait qu'il y a la nourriture, les oiseaux sont restés. Et il a fallu quand même plusieurs années pour qu'il y ait les premières nidifications.
Alors, souvent, tu leur fais un petit rappel historique sur les vautours, Sébastien, à ces personnes...
Je trouve ça intéressant, effectivement, de voir comment la représentation de ces oiseaux a pu évoluer au cours des temps. Et en regard aussi des religions qui se sont appropriées la symbolique de cet oiseau. Chez les Égyptiens, c'était un oiseau vénéré comme un dieu. Il était, de par sa capacité à monter haut dans le ciel, symbolisait effectivement cette relation avec le divin. Pareil chez les Grecs et les Romains. Les Romains, ils voyaient un bon augure, c'est-à-dire que la présence des vautours était positive par rapport à l'endroit où ils pouvaient être. Historiquement, Romus et Romulus ont déterminé le lieu de fondation de Rome en fonction de l'endroit où ils voyaient le plus de vautours.
Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que c'était... Enfin, ils avaient déjà compris que c'était gage d'une certaine... d'assainir un endroit...
Évidemment, quelle compréhension il y avait du processus écologique, j'en sais rien, mais il y avait une grosse symbolique, et effectivement, les augures romains qui étaient donc ceux qui lisaient à travers le vol des oiseaux les présages, avait dit que la présence de vautours était un bon signe et donc déterminait un endroit potentiellement intéressant. Voilà. Donc les Romains, eux, considéraient cet oiseau comme un oiseau pareil, hein, pour les Grecs, donc ces deux civilisations. Les Grecs considéraient que le vautour était un messager de Zeus, donc il était capable d'aller haut dans le ciel et donc de communiquer avec les dieux. Et donc on était là vraiment, et c'est assez intéressant de regarder, c'est dans ces religions polythéistes, on était dans un respect et dans une divination de l'animal. Et donc, l'animal n'a pas eu de persécution par l'homme à cette époque-là. Ensuite, on est arrivé à une vision plus monothéiste, les religions, on va dire contemporaines. Et là, du coup, Dieu étant quelque chose d'immatériel, les créatures qu'il avait créées étaient sujets à une note symbolique. Et du coup, le vautour est devenu... un animal associé plus au diable, à des choses beaucoup plus noires, avec des légendes qui couraient sur la capacité de l'oiseau à récupérer des enfants, à capturer des oiseaux, je vais y arriver, tu me le dis, des agneaux vivants. Des croyances qui ne sont pas du tout compatibles avec la réalité de la biologie de l'animal.
Il était devenu un prédateur et puis surtout, il bouffe des morts. Donc c'est quand même à ce moment-là qu'il perd un peu ça.
C'est ça, la capacité de l'animal à manger la mort était effectivement mal vue. Et donc, on est passé d'un temps où l'animal était vénéré à un temps où il a été exterminé. Bon, comme généralement, quand on s'y prend bien, on fait les choses bien. Il a été complètement exterminé. Voilà, donc c'était le vautour fauve en particulier, était un animal classique du paysage. Qui nous accompagnait effectivement avec beaucoup d'intérêt dans son rôle d'écarissage. Et puis, rapidement, puisqu'on a fait du bon boulot, on s'est retrouvé à ne plus avoir cette fonction-là. Et donc, on s'est retrouvé avec des problèmes de transmission de maladies, d'animaux morts qui pourrissaient sur place, dont les charognes n'étaient pas éliminées aussi rapidement que ce que le vautour peut le faire. Et donc, il a fallu plus récemment un groupe d'illuminés un peu fous qui s'appelle les écologistes, qui ont dit, mais vous avez réfléchi à ce que cet oiseau pouvait apporter, comment, pourquoi il était là, qu'est-ce qui, dans l'équilibre des relations entre les animaux et les êtres vivants, qu'est-ce qu'il apportait. Et donc voilà, début des années 90, il y a eu un gros travail de lobbying de la part de ces gens-là. Et puis le programme, donc, comme expliquait Michel, a commencé fin 90. Ici. Ce qui est intéressant aussi de remarquer dans le rapport à cet animal, c'est qu'il y a encore une religion en Inde qui donne ses morts aux vautours. Voilà, il y a des charniers spéciaux et on appelle ça, je vais retrouver le nom, je ne l'ai pas sous les yeux, les tours du silence. Voilà, les tours du silence dans lesquels les corps des défunts sont donnés aux vautours pour être symboliquement recyclés et je ne sais plus le mot, mais voilà, ça
réincarné.
Merci,
c'est
ça
le mot. Par le vautour.
C'est ce mot-là que je cherchais. Merci Baptiste.
Incroyable.
Pour favoriser la réincarnation, tout à fait.
Alors, c'était pour cette raison-là, Michel ? Vraiment ? Il y a eu une étude particulière faite par le parc à ce moment-là pour se dire, bon...
Tout à fait, il y a une étude de faisabilité qui a été faite par Jean-Pierre Choisy, qui était à l'époque le chargé de mission biodiversité au parc, donc sur la faisabilité de la réintroduction de cet oiseau sur le parc du Vercors. On peut lui dire merci parce que grâce à lui, le programme a abouti. Et donc maintenant, il est...
Donc il y avait eu quand même déjà une première, j'allais dire, expertise qui avait été faite sur ces questions de pollution par bêtes mortes. Parce que quand on parle des bêtes mortes, c'est pas uniquement celles qu'on entend. Enfin, on va parler des carissages après, mais ce sont bien les bêtes d'élevage. Il y a aussi tout un tas d'autres animaux qui peuvent mourir comme ça sur le plateau et être...
Disons que le programme de vautours, c'est suite aussi aux nouvelles réglementations sanitaires. Avant, c'est vrai que les agriculteurs, ils se posaient pas trop de questions. Les bêtes mortes, ils allaient les balancer derrière chez eux dans un trou. Ils se préoccupaient pas vraiment du reste. Et donc, après, suite aux nouvelles normes sanitaires, il a fallu que l'écarissage a été organisé.
C'est devenu une obligation.
Donc, il fallait collecter toutes ces bêtes et le vautour était un moyen d'éliminer ces carcasses d'une façon naturelle.
Ça se faisait comment avant ? Vous les brûliez ?
Disons qu'avant, il y avait une collecte qui était faite, ça partait chez des industriels qui s'en servaient pour faire on ne sait pas trop quoi. Normalement, elles étaient incinérées, mais des fois, il y avait un peu de farine qui était faite avec les carcasses. On ne sait pas, bon.
Oula.
Voilà. C'était un peu les apprentis sorciers là-dedans. Donc, c'est vrai que le vautour, lui, au moins, l'avantage, c'est que tout ce qu'il consomme, au moins, on sait que on le retrouvera pas dans notre assiette, ça c'est sûr, ou dans de la farine animale ou poisson, comme ça a pu être le cas à une certaine période.
Parlons d'écarissage, Michel, faut être écarisseur ou spécialiste du vautour en vrai sur ce métier ?
Un peu les deux. Parce que c'est vrai que donc moi je m'occupe de la partie écarissage pour le programme du parc. On a un gros secteur de collecte sur le Diwa et le Vercors. On a à peu près 130 points de collecte sur la commune. Moi, je pars de mon secteur, c'est tout le Diwa jusqu'à Beaumont-en-Diwa. Je ne vais pas sur le Haut-Diwa. Et après, sur le plateau du Vercors, c'est le canton de la Chapelle. Voilà. Et donc, j'ai à peu près 130 points de collecte. Donc, les agriculteurs ont un numéro avec un répondeur. Donc, ils laissent des messages quand ils ont une bête morte. Et donc, la collecte se fait trois fois par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Parce que
et entre-temps, ils ont un espèce de stockage, du coup ?
Oui,
par exemple.
Ils le laissent derrière la ferme. Ouais. Normalement, ça doit être collecté au bout de maximum 48 heures. Donc, c'est assez rapide. Donc, moi, je collecte ces bêtes et donc je les amène sur le charnier de Chamaloc. Donc, j'ai la gestion.
Donc, c'est plutôt des bêtes d'élevage, hein, on est d'accord ?
Et
quel volume ?
C'est de l'ovin et du caprin et un peu des jeunes bovins. Des veaux mort-nés souvent.
Il n'y a pas de poules ? Toutes ces poulaillers qu'il y a par ici, dans peut-être qu'elles
meurent. Non, ils n'ont pas le droit. En fait, il y a une convention qui est passée avec la LPO et la Fédération des fédérations ovines et caprins de France. Donc, ils ont, sur les secteurs où il y a des programmes de réintroduction vautour, les équarisseurs professionnels laissent cette manne sur les programmes de réintroduction. Donc c'est uniquement du bovin, jeune bovin, caprin et ovin. Je ne prends pas les équins.
Et quel volume ?
Alors par an, ça peut représenter entre 90 et 95 tonnes par an. Donc c'est quand même assez conséquent.
Ah ouais.
Réparti sur trois collectes hebdomadaires.
Et donc tout ça au charnier.
Et donc tout ça c'est sur le charnier. Et donc moi j'ai en charge de gérer le charnier. Donc après, une fois que les vautours sont passés, il y a quand même des déchets, hein, comme la peau et puis les os. Donc ça c'est évacué dans des containers. Et ça part par contre à l'équarisseur industriel pour destruction.
Il n'y a pas un vautour qui mange les os normalement ?
Bah si, il y en a un, mais...
Il n'est pas assez, c'est ça ?
Il n'y en a pas assez en nombre. C'est bon, c'est 95 tonnes de... Ça commence à faire quand même du volume, quoi. Hein. Ouais. Donc le gypaète barbu, il est présent sur le secteur du Vercors, mais bon, c'est entre, on va dire, maximum, on a deux oiseaux sur le territoire, donc à deux...
Pourquoi ça ne marche pas le gypaète barbu, là ?
C'est pas que ça marche pas, c'est qu'on est sur un programme de réintroduction en ce moment.
Ah non, c'est en cours.
C'est en cours. Il y en a encore pour 2 ou 3 ans. Et bon, c'est encore des oiseaux qui sont quand même relativement rares. Il n'y en a pas en grand nombre. Hein. Au niveau de l'Europe, je crois que c'est 140 couples.
Relativement solitaires aussi ?
Non, en couple. Ça vient en couple. Et pour l'instant, nous, on n'a que des oiseaux seuls. Il n'y a pas eu encore de formation de couple sur le Vercors. On espère dans les années à venir, là.
Et puis, il ne s'entend pas très bien avec les autres.
Disons que le gypaète, il est territorial. Donc, lui, il défend son territoire, alors que le vautour fauve, lui, pas du tout. Lui, il est plutôt cool. Il accepte des voisins sans problème.
Après, il ne s'entend pas bien avec les autres de son espèce. Ouais. Il est parfaitement adapté quand il y a des vautours fauves ou des vautours moines. Il attend que les autres aient fini de manger. Comme il sait que lui, ce qu'il mange, c'est à la fin, ça ne lui pose aucun problème.
Oui, il les regarde faire. Ils viennent sur son territoire manger, c'est ça, c'est bon. Ouais. Ok. Donc, ils se battent entre eux. Sébastien, quelles sont les questions qu'on te pose une fois que les gens arrivent sur le charnier ?
Bah, pourquoi on les nourrit ? Ouais, c'est une question qui revient très souvent.
Ah bah oui, pourquoi ?
Donc Michel a donné la réponse. Hein, ouais. On les a réintroduits pour les utiliser, en gros, pour favoriser l'équarissage. Mais je pense qu'il y avait aussi un rôle écologique intéressant là derrière. C'est qu'en maintenant des populations sur le territoire, on maintient aussi un équarissage pour les cadavres naturels. Donc ça permet d'assainir aussi les animaux naturellement morts dans la nature, chamois, cerfs. Sous réserve effectivement qu'il soit accessible pour ce type d'équarisseur, puisque il faut qu'il y ait un ordre, on a vu tout à l'heure, hein, une aire d'atterrissage et une aire d'envol favorable.
Ouais, c'est ça, si ils meurent en pleine forêt.
Non, en forêt, ils n'y vont pas. Ouais. Non, ils ne se posent pas en forêt, parce que le problème après, c'est pour décoller. Parce que quand c'est des oiseaux qui sont au sol, ils sont quand même relativement vulnérables.
Et ça s'est observé, ça justement, on les voit se déplacer, aller sur des points qu'on ne connaît pas tout d'un coup en pleine montagne.
Ah ben, en période estivale, quand il y a les transhumants sur les alpages, oui. Effectivement, nous, sur le charnier, la population est beaucoup moins importante. Ils sont sur les alpages où ils savent qu'il y a de la ressource qui n'est pas loin. L'été, nous, on a des vautours qui sont sur le Dévoluy, qui vont sur les Savoies, sur le territoire aussi, qui s'éparpillent un peu sur le territoire. Ils sont pas sur Chamaloc en période estivale. Toute la période de pastoralisme, ils sont souvent sur les montagnes, en quête de nourriture.
D'autres questions ?
Bah après, l'autre question qui intéresse souvent, c'est les envergures. Hein. C'est des oiseaux qui sont quand même assez impressionnants et qui sont... adapté au vol plané, donc on part de 1m60 pour le plus petit, le percnoptère d'Égypte, on passe par 2m70 pour le vautour fauve et entre 2m90 et 3m pour le vautour moine et le gypaète barbu, donc on est sur des envergures assez impressionnantes. Donc moi je m'amuse à me promener avec 1 mètre et puis on met l'envergure en évidence pendant les explications et là on se rend compte que si on était en face de l'oiseau les ailes écartées, on serait quand même tout petit.
Sur son rapport avec l'humain, voilà, c'est un animal qui est content de vivre ça, ce charnier, etc. Ça lui pose problème ou pas, les hommes ?
Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'ai pu observer quand on est en relation avec Michel pendant la période où moi, je fais le début de la promenade et je sais qu'il va arriver. c'est que au moment où il va arriver, je sais que le camion approche parce qu'il y a les oiseaux qui arrivent. On était là, on se promenait aussi bien. Il y avait 4-5 oiseaux posés dans les branches qui attendaient tranquillement. Et puis petit à petit, on voit des oiseaux qui arrivent. Et puis c'est des dizaines de grappes qui arrivent, qui descendent. Et là, je sais que c'est Michel qui est en train d'approcher avec sa remorque.
Ouais, je crois qu'ils ont bien identifié le véhicule.
Mais quoi, au son ou à l'odeur?
Non, je pense que c'est visuel. C'est visuel, oui, tout à fait. Oui. Ils savent que le casse-croûte arrive et...
Oui, ils ont une capacité comme ça de vue qui est quand même super, une grande acuité quoi. Ça, ils voient très
oui,
loin.
Oui, ils voient très bien. Oui, mais
une mouche à 400 mètres, on m'avait dit.
Ça, je sais pas, mais dans la nature, souvent, ils repèrent leur nourriture grâce aux corbeaux aussi, hein, parce que souvent sur les carcasses, les premiers arrivés, ce sont les grands corbeaux. Et donc le vautour, il repère un peu le manège des grands corbeaux, et donc il va voir ce qui se passe. Il y en a un qui se met à tourner au-dessus, deux, trois, et puis ça fait un effet de... Ça attire les autres. Donc, ça, voilà. Et après, donc, après, il se pose et...
Et ça va avec les corbeaux ou ils les chassent?
Ah ben, le corbeau à côté, même si les grands corbeaux, c'est impressionnant, ouais. À côté, c'est petit, quoi. Donc, souvent, le corbeau, ben, il regarde, il attend. Et puis une fois que les vautours ont fini, bah lui il vient achever, il vient fignoler les restes.
Moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'au début ils essaient d'avoir le dernier mot, donc je les vois attaquer quand même les vautours au début. Et puis quand il y a suffisamment de vautours, ils comprennent qu'ils vont pas avoir le dernier mot, et là ils laissent la place.
Ce programme de réintroduction, il en est où alors? Ça a bien marché, par exemple, sur les vautours fauves dont on parle, qui sont quand même en nombre conséquent?
Oui, le programme, on va dire qu'il est bien abouti maintenant sur le vautour fauve. Hein, depuis, donc, ça a débuté dans 89-90. Aujourd'hui, on est sur un suivi de population qui est toujours en augmentation. Hein. Nous, aujourd'hui, sur le parc, on a à peu près 60 couples nicheurs. Donc chaque année, il y a une augmentation de ces couples nicheurs, donc c'est plutôt favorable. Hein. De toute façon, la population, elle se régule par rapport à la nourriture. Hein. Donc pour l'instant, la nourriture leur permet d'avoir une augmentation de la population. Ça se régule par rapport à la façon à la nourriture.
Et puis ça brasse avec d'autres secteurs. Hein,
on
a retrouvé des bagues espagnoles, tout ça.
Voilà,
j'avais
entendu
dire.
Ça, oui, parce que je m'occupe aussi, je fais un suivi aussi sur la lecture de bagues. Et effectivement, il y a quelques oiseaux qui arrivent d'Espagne pour visiter le Diwa.
Et qui y restent?
Et qu'il y en a certains qui restent, oui.
Ouais. Qui créent une famille ici.
Et voilà, et après.
Tant mieux, ça brasse la génétique.
On a beaucoup de visites des baronnies aussi.
Oui, ouais, et baronnies.
Oui, les deux colonies, Vercors et Baronnies, il y a énormément d'échanges. Hein. D'ailleurs qu'aujourd'hui, au niveau européen, même français, on considère presque que c'est le même noyau.
Et vous avez travaillé ensemble sur ce programme de réintroduction, ou c'était vraiment deux programmes séparés, en fait?
Là, il y a eu deux programmes séparés, mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail en commun, quoi.
Je veux dire, par la force des choses, bon.
Ouais, ben, oui, ben ouais, oui.
Ouais. Sébastien, c'est... randonnée, balade, vautour, quel sens tu y mets, toi? En fait, d'ailleurs, pourquoi est-ce que le public vient? Est-ce que c'est pour réhabiliter cet animal, justement? Est-ce que ça fonctionne, d'ailleurs?
Déjà, le fait qu'on rencontre un animal, c'est toujours très intéressant. Hein, c'est un plus. Parmi les sorties que je peux proposer, quand il y a un animal à rencontrer, il y a plus de public qui vient. Là, j'ai la quasi-certitude, en plus, de pouvoir les voir. Parce que je sais les jours où Michel va porter des carcasses, et donc je sais qu'il va y avoir des vautours qui vont être présents sur le site. Donc pouvoir dire « je vous amène observer un animal avec certitude », c'est quand même un plus intéressant. Quand je fais des sorties castor, sur le nombre de sorties castor que j'ai fait cet été, je l'ai vu moins d'une fois sur cinq. Donc c'est des statistiques qui sont moins intéressantes. Après, c'est vrai que c'est un animal qui permet d'ouvrir sur le cycle de la nature. C'est un animal qui permet de parler d'aérologie. Donc c'est un animal qui... et un peu un vecteur sur d'autres contenus qui est intéressant.
Et sur cette question, est-ce que ça le réhabilite un peu, puisqu'il est passé dans ses phases de quasi-dieu à pire animal sur Terre, exterminé aujourd'hui?
Je pense que, en tout cas, la façon qu'on peut avoir de s'approprier son rôle permet de le réhabiliter. Après, je ne suis pas dans les têtes des gens. J'ai vu très peu de gens vautours phobes quand ils arrivaient. Donc, c'est vrai qu'il y a un tri, il y a un pré-tri. Hein. J'ai eu une fois cet été, c'est la première fois que ça m'arrivait, un couple qui a commencé à réserver. Puis après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, mais en fait... Le mari m'a appelé, m'a dit ma femme a peur des vautours et donc ils ont annulé la sortie. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Donc les gens généralement ils sont quand même plus intéressés, un peu fascinés. Donc il y a pas trop de travail de réhabilitation à faire dans leur représentation.
On connaît des animaux qui ont comme ça malgré tout gardé leur mauvaise image et sont mal aimés par la population, tués parfois, braconnés. Est-ce que c'est le cas du vautour? On le laisse tranquille globalement?
Sur le secteur ici, non, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne image de marque sur le vautour. Je pense quand même que les gens, il y a une conscience environnementale qui entraîne quand même d'émerger, quoi. Donc je dirais qu'il a plutôt bonne presse. Les gens sont plutôt favorables à ce programme de réintroduction, sont sensibles à ça.
Et donc on trouve pas de voilà, il n'est pas...
pas sur notre secteur. Il y a eu un ou deux cas en France d'oiseaux qui ont reçu du plomb, mais bon après.
Ouais, ça va mettre deux cas, voilà. C'est pas.
Oui, c'est pour l'instant il y a rien de grave. Mais dans certains, c'est vrai que dans certains pays, sur certains continents, il y a eu des soucis d'empoisonnement.
C'est quoi la suite avec ce programme là?
Eh bien là, nous, ce qu'on espère maintenant, c'est que d'autres vautours arrivent, donc les vautours suiveurs. Donc il y a le vautour moine et le vautour percnoptère. Donc le vautour moine est présent sur le site de Chamalogue depuis, on va dire, 2 ans. On peut l'observer régulièrement.
Donc ça, vous l'avez pas réintroduit?
Non, les oiseaux qu'on a, souvent, ils viennent des baronnies. Parce que sur les baronnies, ils ont un programme de réintroduction de vautours moines. Et donc, il y a des oiseaux qui viennent sur Chamalogue. Et donc, cette année, on en a eu jusqu'à 4. Donc, c'est plutôt encourageant. On espère qu'il y ait une nidification pareille dans les années à venir. Et puis maintenant, on attend la venue du percnoptère, le vautour d'Égypte. Celui-ci est quand même pas mal... Il y a pas mal de problèmes sur les zones d'hivernage avec ce vautour.
Pourquoi? Parce qu'il fait trop froid.
Ouais. Et puis il est dans des, sa zone d'hivernage, c'est souvent dans des zones de conflit. Donc il fait partie des dégâts collatéraux.
Ah oui, c'est-à-dire.
Il faut préciser que c'est un oiseau migrateur. Donc,
voilà, migrateur, puisqu'il est hiverne. D'accord, ok. Oui, c'est bien de le dire. Donc il est où? Il est en ce moment.
L'hiver, c'est l'Afrique.
Ouais.
C'est l'Afrique, et c'est vrai que souvent il est dans des zones de conflit. Donc.
Donc chaque année, il fait cette distance-là pour venir un petit peu ici l'été.
Il vient à la période de reproduction. Il vient de se reproduire.
Il se reproduit ici.
Si. Okay. Nous, pour l'instant, on a eu sur le territoire du parc, on a eu qu'un couple qui s'est reproduit 2 années de suite, je crois. Et la troisième année, un des deux a disparu. Un oiseau est venu seul. Et donc depuis.
Il vient seul, mais voilà.
Ouais, il est revenu 2 ans seul, et puis maintenant, c'est fini, on ne le voit plus.
Ouais. Donc, ils sont dommages collatéraux. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ça c'est, il n'y a pas moyen de les maintenir sur place en les réintroduisant. Enfin bon, ça s'est vu d'inverser des cycles. On ne pourrait pas passer l'hiver ici, de toute façon, d'un point de vue physiologique.
C'est des oiseaux qui ont été blessés, qui ont été mis en volière pour être soignés. Mais après ils sont relâchés au printemps et après ils reprennent leur cycle normal de la vie, quoi.
Et donc ce gypaète de barbu qui lui là pour le coup est réintroduit.
Donc là le parc, il y a un programme de réintroduction depuis 2000, ça fait 5 ans je crois. Ça fait 5-6 ans que ça a commencé. Donc nous on en est à peu près à une douzaine d'oiseaux qui ont été relâchés sur le site, sur la commune de Trèchenu. Et sur cette douzaine d'oiseaux, donc deux sont encore sur le secteur, dont un adulte et un deuxième oiseau qui est plutôt 3-4 ans. Donc en sachant que l'âge de reproduction de ces oiseaux, c'est à peu près 6 ans. Donc le premier est en âge de se reproduire, mais le second non. Puis en plus, on ne sait pas si c'est un couple ou si c'est deux femelles ou deux mâles. Donc voilà, on attend.
Et tous les autres, ils sont partis où?
Ben, c'est pareil, c'est des, comme tous les vautours, hein, quand ils sont jeunes, eh ben, ils voyagent. Ouais. Donc ils font le tour des Alpes, ils vont sur le Massif Central, ce sont des grands voyageurs à l'adolescence.
Vous avez pas de suivi quoi là-dessus?
Ils ont une balise GPS. Donc on sait qu'il y en a un qui est sur le Mercantour, qui s'est reproduit là-bas. Après, bah, les autres, les GPS, ils tiennent à peu près 2-3 ans et après ils le perdent. Donc les autres oiseaux, on ne sait pas trop où ils sont.
Ça coûte cher de réintroduire des vautours pour qu'ils s'en aillent plus loin.
Oui, ça c'est des programmes à l'échelle européenne. Ah, ouais. Donc en fait, le but c'est de les réintroduire. Après, bon, s'ils restent sur le secteur, bah, tant mieux quoi. Mais bon, le but c'est de... En fait, le but du programme JPET Barbus, c'est on a une colonie dans les Alpes et une colonie dans les Pyrénées. Et donc, on veut créer un corridor pour qu'il y ait un échange des deux populations pour régénérer un peu la génétique.
Oui, donc ça voudrait qu'il faudrait qu'ils se posent comme ça sur d'ici les Pyrénées, par exemple.
Voilà, donc il y a un programme sur le Vercors, un sur les Baronnies, il y en a un dans les Causses.
Ah ouais.
Donc pour essayer de créer un corridor entre les Alpes et les Pyrénées.
Je t'ai vu osciller, Sébastien.
Non, mais c'est intéressant, ces histoires de corridor. On se pose la question sur pas mal de mouvements de population et... Et voilà, symboliquement, permettre à ces animaux de pouvoir être en relation, retrouver un peu les interrelations qu'il pouvait y avoir avant, c'est intéressant. C'est restaurer un peu des continuités biologiques, donc permettre. C'est vrai pour pas mal d'animaux. Hein, comment on fait que les populations de chevreuils, de cerfs, d'un secteur peuvent être en relation avec d'autres secteurs en créant des ponts, en créant des tunnels. Voilà, on essaye d'avoir cette vision-là. Et c'est intéressant de comprendre qu'en isolant ces populations, on les met en danger, et en permettant au contraire des grands brassages, on favorise un maintien et une solidité de ces populations.
Par le brassage génétique, voilà, notamment.
Oui.
Tu voulais rajouter... Je pense qu'on a fait un tour intéressant. Bon, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais il faut peut-être venir sur le terrain pour en parler maintenant.
Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est quand?
Alors moi je suis disponible le mercredi après-midi en particulier, après j'en propose plus pendant l'hiver, l'été j'en propose le mercredi et le vendredi après-midi, donc c'est à la demande, voilà, faut m'appeler et puis je vois en fonction du nombre de personnes si je peux proposer une sortie ou pas.
Et pourquoi plus pendant l'hiver? Parce qu'il fait trop froid ou...
Parce que les... Non, moi ça me gêne pas, mais c'est à la demande.
C'est les gens, c'est ça. C'est plus ça. On peut faire une sortie observation des vautours en raquette.
Bien sûr.
Ben oui, évidemment.
Oui, parce que pour toi, ça ne s'arrête pas, Michel, toute l'année.
Ah non, moi, c'est toute l'année, toute l'année, trois fois par semaine. Je fais mon petit tour avec ma remorque pour ramasser les carcasses, pour leur mettre à disposition la nourriture.
Et ce rapport au cadavre, comment ça se passe pour toi?
Alors moi, moi, j'ai pas de problème. Hein,
donc un masque, un équipement.
Voilà, oui, quand même, un minimum, oui, masque, gants, voilà, oui.
Ouais, non, il y a des gens que ça fait gerber direct. Hein.
Bah, disons qu'il y a des périodes.
Ah oui.
Voilà, l'hiver, ça va. L'hiver, c'est plus facile.
Ouais.
L'été, c'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être un petit peu compliqué.
Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre plus de 48 heures. Quoi.
Voilà, c'est pour ça qu'on appuie bien sur le fait que les agriculteurs, dès que la bête est morte, il faut qu'ils appellent. Il ne faut pas qu'ils attendent 48 heures.
J'allais dire, on appuie bien sur le... Mais non, appuie pas dessus. Non.
Quand les asticots sortent, quand on appuie dessus, c'est qu'il faut aller appeler Michel.
Bon voilà, on aura parlé encore du vautour ici à cette antenne avec plaisir. Merci à tous les deux.
Merci Baptiste.
Les
Merci.
Sorties vautour avec donc Sébastien Lantôme, Michel Morin pour le parc naturel régional du Vercors.
Et voilà. À très bientôt. Merci beaucoup.